Monsieur Draperi, quelle est la réponse de l'économie solidaire et sociale?
Je ne sais pas si je vais donner la réponse de l'économie sociale et solidaire. En tout cas, ce que je peux dire aussi, c'est, enfin, peut-être de façon assez proche de M. Arbulo, c'est que pour moi, l'entreprise en tant que telle n'a guère de sens, c'est-à-dire que tout dépend du projet de l'entreprise. Or, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes projets. Et le droit consacre une pluralité de types d'entreprises, précisément parce qu'il y a des pluralités de projets. Et donc, je dirais, comment les distinguer? On va dire du point de vue de l'économie sociale et solidaire, on peut dire qu'il y aurait quatre types. Les grandes sociétés de capitaux, dont la finalité est la rémunération du capital. Les toutes petites entreprises, dont qui peuvent avoir plusieurs finalités, mais souvent c'est vivre de son travail. Donc, qui sont totalement différentes. L'économie sociale qui, en fait, se définit à partir de la notion de groupement de personnes. On ne regroupe pas des capitaux, on regroupe des personnes. Mais en même temps, ce n'est pas une entreprise individuelle comme la petite. Et puis enfin, les sociétés publiques qui répondent théoriquement à l'intérêt général. Donc il y a la question qui se pose, c'est effectivement quelle est la nature des relations entre ces types d'entreprises. Est-ce qu'il y a des alliances? Est-ce qu'il y a des incompatibilités? Alors pour étudier ça, bah, il suffit de se tourner sur les territoires, effectivement. Et on se rend compte qu'il y a des conflits d'usage sur les territoires. C'est là où je vais vous rejoindre. Je trouve aussi que rien n'est simple sur les territoires et qu'aujourd'hui, qu'on se tourne vers la terre, vers les minerais, vers l'eau, vers l'énergie, etc., il y a de la concurrence et il y a des projets qui sont contradictoires. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous prenez au Mali, Malibia, qui est en train de mettre la main sur des dizaines de milliers d'hectares, même au Québec, vous voyez, ce n'est pas seulement Madagascar ou les pays africains qui sont touchés par une offensive sur la terre, mais au Québec, il y a des spéculateurs de Shanghai qui sont en train d'acheter des dizaines de milliers d'hectares, hein, avec des sociétés, évidemment, écrans, enfin, c'est très compliqué, mais ça se fait. Hein. De la même façon, si les États-Unis décident de reverser une partie de l'eau des Grands Lacs vers le Mississippi, on va dire que c'est peut-être pas bon pour le Canada. Hein, ça pose des problèmes à Québec ou à Montréal. Voilà, donc sur l'eau, ben, on connaît très bien la question. On est bien placé en France pour savoir qu'est-ce que c'est que les conflits sur la gestion de l'eau. Les minerais, on n'en parle pas. Tout à l'heure, on disait, voilà, le Congo est le plus riche. Le pays qui dispose de plus de ressources minières, et c'est un des plus pauvres. Donc, il y a bien des problèmes. Voilà. Et ça, je suis d'accord qu'il ne faut pas les nier, et que ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas intervenir n'importe comment sur les territoires, et on ne peut pas dire qu'il y a des territoires d'un côté qui seraient industriels, ou en tout cas dans le processus de mondialisation, et d'autres qui échapperaient. On est obligé d'articuler. Alors après, est-ce qu'on peut faire une typologie, ou voir un petit peu des cas différents qui permettraient de définir des stratégies sur les territoires. Alors, moi, j'en vois au moins deux, dont je peux parler à partir d'exemples. Il y a des territoires où le capitalisme est puissant, où les multinationales sont puissantes, et puis il y a des territoires qui sont plutôt en voie de désertification. On va dire que c'est deux pôles par rapport... deux effets de la mondialisation, mais deux pôles quand même au regard de l'économie dominante. Si on prend le champagne, hein, par exemple, la champagne viticole, comme on sait, le champagne est un produit de négoce, hein, des négociants, ce n'est pas un produit de vigneron, et qui a une structure oligopolistique au niveau de la vente des bouteilles, puisque pour le premier producteur de champagne, c'est LVMH. Et en même temps, donc pendant des siècles, enfin en tout cas au moins un siècle et demi, les viticulteurs champenois étaient dans la misère face à un négoce florissant. Et puis à partir de 1910, il y a une révolte et ils sont allés vers la première zone d'appellation qui a été définie en France, me semble-t-il. Et ils ont imposé une forme de négociation. Ils ont établi un rapport de force avec les négociants, en particulier par la création coopérative. Hein, il y a 137 coopératives en Champagne, dont 42 fonds de la commercialisation, c'est-à-dire qu'ils ont pénétré la filière. Et aujourd'hui, même un gars comme Arnaud ou LVMH, quand il est arrivé en Champagne, eh bien, il n'a pas pu Il a compris qu'il n'avait pas intérêt à sortir du cadre du CIVC, hein, du Comité interprofessionnel des vins de Champagne, qui a été en grande partie l'œuvre collective des vignerons, hein, qui ont établi un rapport de force aussi bien économique à travers les coopératives que politique au sein du CIVC. Donc voilà, je pense qu'effectivement, là on a un territoire où il y a 35 000 hectares environ de vignes, mais il y a 20 000 exploitations. Donc on a une région qui aurait pu tourner tout à fait autrement. Il y a d'autres régions viticoles du nord de la Loire qui ont disparu. Vraiment, je crois que la première raison, c'est qu'ils n'ont pas su définir un produit, s'appuyer sur leur tradition et puis établir un rapport de force avec des partenaires commerciaux qui étaient surpuissants. Mais par contre, on a évidemment aujourd'hui de très nombreuses régions qui sont en voie de désertification. Il y en a une que je connais bien en France, qui est la vallée du Queyras, hein, dans les Hautes-Alpes. Eh bien, on est dans une situation très différente, puisque là, l'industrie n'a pas pénétré, pratiquement. Et donc la question, c'est plutôt comment continuer d'habiter dans une haute vallée entre 1500 mètres et 2000 mètres d'altitude, où les activités, où l'emploi manque. Eh bien, ce qu'on observe, là, c'est qu'il y a, sur un tout petit territoire qui concerne 2300 personnes, il y a des sociétés coopératives de production, il y a une SICA, Société d'intérêt collectif agricole, qui réunit tous les producteurs agricoles, il y a une coopérative artisanale, il y a un syndicat des artisans du meuble, il y a une association sociale, culturelle et sportive qui réunit pratiquement toutes les familles, à peu près 500 personnes. Vous voyez, on a une communauté de communes extrêmement soudée, un parc naturel régional, donc un grand nombre de structures qui sont d'économie sociale ou proches, en tout cas, et qui fédèrent ou qui associent les petites entreprises, hein, avec l'appui, évidemment, de la puissance publique, et qui permet, je ne dis pas que ça se fait systématiquement, mais qui permet de définir un marché local. C'est-à-dire que là, je dirais, comment maintenir de la richesse dans une région comme le Queyras? Eh bien, en faisant de telle sorte que l'argent qui monte par les touristes soit dépensé dans le Queyras. Et que les Queyrassins, je prends un exemple très simple, s'il y a quelqu'un qui... C'est un cas réel, bien sûr. S'il y a quelqu'un qui s'installe, qui vient parce qu'il trouve que c'est joli, et il s'installe dans le Queyras et il va produire du miel... Il va le produire plus cher que le miel qui est en vente au supermarché à 30 km. Mais si ses voisins achètent son miel et que lui, de la même façon, dépense son argent dans le Queyras, eh bien, on crée un marché interne au niveau du Queyras. Et c'est, au moins en partie, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire qu'on a, on peut tout à fait créer de la richesse et la maintenir. On parle maintenant d'ailleurs de monnaie complémentaire. Il y a aussi une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc vous voyez, on est dans aussi bien. Donc en résumé, je dirais le premier exemple à exiger de pénétrer une filière, quoi, on était vraiment dans un raisonnement filière. Le second exemple, il est vraiment dans la transversalité, de façon à embrasser toutes les sphères de la vie locale, qui va du service postal au service aux personnes âgées ou aux activités pour les jeunes. J'aurais pu mentionner aussi les activités culturelles. Bon, il y a un grand nombre de possibilités. Mais je vois au moins ces deux stratégies possibles pour maintenir ou développer de la richesse sur un territoire. Et je dirais pour conclure qu'il me semble que, du coup, si par rapport aux quatre types d'entreprises que je définissais tout à l'heure, je dirais très souvent ce qui peut être observé, c'est un partenariat entre des toutes petites entreprises, les entreprises d'économie sociale et le soutien de la puissance publique qui peut définir une économie, sinon alternative, ou en tout cas qui permet de développer une autre économie lorsqu'on est dans un territoire désertifié. Et donc, je crois que les entreprises d'économie sociale, sous cet angle, sont l'outil privilégié du développement territorial au niveau économique.